Première partie, chapitre 5. Je n'aurais pas senti moi-même que Madame de Guermantes était excédée de me rencontrer tous les jours, que je l'aurais indirectement appris du visage plein de froideur, de réprobation et de pitié, qui était celui de Françoise, quand elle m'aidait à m'apprêter pour ses sorties matinales. Dès que je lui demandais mes affaires, je sentais s'élever un vent contraire dans les traits rétractés et battus de sa figure. Je n'essayais même pas de gagner la confiance de Françoise. Je sentais que je n'y arriverais pas. Elle avait, pour savoir immédiatement tout ce qui pouvait nous arriver, à mes parents et à moi, de désagréable, un pouvoir dont la nature m'est toujours restée obscure. Peut-être n'était-il pas surnaturel et aurait-il pu s'expliquer par des moyens d'information qui lui étaient spéciaux. C'est ainsi que des peuplades sauvages apprennent certaines nouvelles plusieurs jours avant que la poste les ait apportées à la colonie européenne et qui leur ont été en réalité transmises, non par télépathie, mais de colline en colline à l'aide de feux allumés. Ainsi, dans le cas particulier de mes promenades, peut-être les domestiques de Madame de Guermantes avaient-ils entendu leur maîtresse exprimer sa lassitude de me trouver inévitablement sur son chemin, et avait-il répété ses propos à Françoise. Mes parents, il est vrai, auraient pu affecter à mon service quelqu'un d'autre que Françoise. Je n'y aurais pas gagné. Françoise, en un sens, était moins domestique que les autres. Dans sa manière de sentir, d'être bonne et pitoyable, d'être dure et hautaine, d'être fine et bornée, d'avoir la peau blanche et les mains rouges, elle était la demoiselle de village dont les parents étaient bien de chez eux, mais ruinée, avait été obligée de la mettre en condition. Sa présence dans notre maison, c'était l'air de la campagne et la vie sociale dans une ferme. Il y a 50 ans, transportée chez nous, grâce à une sorte de voyage inverse où c'est la villégiature qui vient vers le voyageur. Comme la vitrine d'un musée régional l'est par ces curieux ouvrages que les paysannes exécutent et passementent encore dans certaines provinces, notre appartement parisien était décoré par les paroles de Françoise, inspirées d'un sentiment traditionnel et local, et qui obéissait à des règles très anciennes. Et elle savait y retracer, comme avec des fils de couleurs, les cerisiers et les oiseaux de son enfance, le lit où était morte sa mère et qu'elle voyait encore. Mais malgré tout cela, dès qu'elle était entrée à Paris à notre service, elle avait partagé, et à plus forte raison tout autre l'eût fait à sa place, les idées, les jurisprudences d'interprétation des domestiques des autres étages, se rattrapant du respect qu'elle était obligée de nous témoigner, en nous répétant ce que la cuisinière du quatrième disait de grossir à sa maîtresse, et avec une telle satisfaction de domestique que, pour la première fois de notre vie, nous sentant une sorte de solidarité avec la détestable locataire du quatrième, nous nous disions que peut-être, en effet, nous étions des maîtres. Cette altération du caractère de Françoise était peut-être inévitable. Certaines existences sont si anormales qu'elles doivent engendrer fatalement certaines tares, telles celles que le roi menait à Versailles entre ses courtisans, aussi étranges que celles d'un pharaon ou d'un doge, et, bien plus que celles du roi, la vie des courtisans. Celle des domestiques est sans doute d'une étrangeté plus monstrueuse encore, et que seule l'habitude nous voile. Mais c'est jusque dans des détails encore plus particuliers que j'aurais été condamnée, même si j'avais renvoyé Françoise, à garder le même domestique. Car divers autres purent entrer plus tard à mon service. Déjà pourvus des défauts généraux des domestiques, ils n'en subissaient pas moins chez moi une rapide transformation. comme les lois de l'attaque commandent celles de la riposte, pour ne pas être entamé par les aspérités de mon caractère, tous pratiquaient dans le leur un rentrant identique et au même endroit. Et, en revanche, ils profitaient de mes lacunes pour y installer des avancées. Ces lacunes, je ne les connaissais pas, non plus que les saillants auxquels leur entre-deux donnait lieu, précisément parce qu'elles étaient des lacunes. Mais mes domestiques, en se gâtant peu à peu, me les apprirent. Ce fut par leurs défauts, invariablement acquis, que j'appris mes défauts naturels et invariables. Leur caractère me présenta une sorte d'épreuve négative du mien. Nous nous étions beaucoup moqués autrefois, ma mère et moi, de Madame Sazerat, qui disait, en parlant des domestiques, « Cette race, cette espèce !» Mais je dois dire que la raison pourquoi je n'avais pas lieu de souhaiter de remplacer Françoise par quelque autre est que cette autre aurait appartenu tout autant et inévitablement à la race générale des domestiques et à l'espèce particulière des miens. Pour en revenir à Françoise, je n'ai jamais dans ma vie éprouvé une humiliation sans avoir trouvé d'avance sur le visage de Françoise des condoléances toutes prêtes. Et si, lorsque dans ma colère d'être plaint par elle, je tentais de prétendre avoir au contraire remporté un succès, mes mensonges venaient inutilement se briser à son incrédulité respectueuse, mais visible, et à la conscience qu'elle avait de son infaillibilité. Car elle savait la vérité. Elle la taisait et faisait seulement un petit mouvement des lèvres, comme si elle avait encore la bouche pleine et finissait un bon morceau. Elle la taisait. Du moins, je l'ai cru longtemps, car à cette époque-là, je me figurais encore que c'était au moyen de paroles qu'on apprend aux autres la vérité. Même les paroles qu'on me disait déposaient si bien leur signification inaltérable dans mon esprit sensible que je ne croyais pas plus possible que quelqu'un qui m'avait dit m'aimer ne m'aimât pas. Que Françoise elle-même n'aurait pu douter, quand elle l'avait lu dans un journal, qu'un prêtre ou un monsieur quelconque fût capable, contre une demande adressée par la poste, de nous envoyer gratuitement un remède infaillible contre toutes les maladies ou un moyen de centupler nos revenus. En revanche, si notre médecin lui donnait la pommade la plus simple contre le rhume de cerveau, elle, si dure aux plus rudes souffrances, gémissait de ce qu'elle avait dû renifler, assurant que cela lui plumait le nez, et qu'on ne savait plus où vivre. Mais la première, Françoise me donna l'exemple, que je ne devais comprendre que plus tard, quand il me fut donné de nouveau, et plus douloureusement, comme on le verra dans les derniers volumes de cet ouvrage, par une personne qui m'était plus chère. Que la vérité n'a pas besoin d'être dite pour être manifestée. Et qu'on peut peut-être la recueillir plus sûrement sans attendre les paroles et sans tenir même aucun compte d'elle dans mille signes extérieurs, même dans certains phénomènes invisibles, analogues dans le monde des caractères à ce que sont, dans la nature physique, les changements atmosphériques. J'aurais peut-être pu m'en douter, puisque à moi-même, alors, il m'arrivait souvent de dire des choses où il n'y avait nulle vérité, tandis que je la manifestais par tant de confidences involontaires de mon corps et de mes actes, lesquelles étaient fort bien interprétées par Françoise. J'aurais peut-être pu m'en douter, mais pour cela, il aurait fallu que j'eusse su que j'étais alors quelquefois menteur et fourbe. Or, le mensonge et la fourberie était chez moi, comme chez tout le monde, commandé d'une façon si immédiate et contingente, et pour sa défensive, par un intérêt particulier que mon esprit, fixé sur un bel idéal, laissait mon caractère accomplir dans l'ombre ses besognes urgentes et chétives, et ne se détournait pas pour les apercevoir. Quand Françoise, le soir, était gentille avec moi, me demandait la permission de s'asseoir dans ma chambre, il me semblait que son visage devenait transparent et que j'apercevais en elle la bonté et la franchise. mais Jupien, lequel avait des parties d'indiscrétion que je ne connus que plus tard, révéla depuis qu'elle disait que je ne valais pas la corde pour me pendre et que j'avais cherché à lui faire tout le mal possible. Ces paroles de Jupien tirèrent aussitôt devant moi, dans une teinte inconnue, une épreuve de mes rapports avec Françoise, si différente de celle sur laquelle je me complaisais souvent à reposer mes regards, et où, sans la plus légère indécision, Françoise m'adorait et ne perdait pas une occasion de me célébrer. Que je compris que ce n'est pas le monde physique seul qui diffère de l'aspect sous lequel nous le voyons. Que toute réalité est peut-être aussi dissemblable de celle que nous croyons percevoir directement, que les arbres, le soleil et le ciel ne seraient pas tels que nous les voyons, s'ils étaient connus par des êtres ayant des yeux autrement constitués que les nôtres, ou bien possédant, pour cette besogne, des organes autres que les yeux, et qui donneraient des arbres, du ciel et du soleil, des équivalents, mais non visuels. Telle qu'elle fut, cette brusque échappée que m'ouvrit une fois Jupien sur le monde réel m'épouvanta. Encore ne s'agissait-il que de Françoise, dont je ne me souciais guère. En était-il ainsi dans tous les rapports sociaux? Et jusqu'à quel désespoir cela pourrait-il me mener un jour, s'il en était de même dans l'amour? C'était le secret de l'avenir. Alors, il ne s'agissait encore que de Françoise. Pensait-elle sincèrement ce qu'elle avait dit à Jupien? L'avait-elle dit seulement pour brouiller Jupien avec moi? Peut-être pour qu'on ne prît pas la fille de Jupien pour la remplacer? Toujours est-il que je compris l'impossibilité de savoir, d'une manière directe et certaine, si Françoise m'aimait ou me détestait. Et ainsi, ce fut elle qui, la première, me donna l'idée qu'une personne n'est pas, comme j'avais cru, claire et immobile devant nous, avec ses qualités, ses défauts, ses projets, ses intentions à notre égard. Comme un jardin qu'on regarde, avec toutes ses plates-bandes, à travers une grille. Mais est une ombre où nous ne pouvons jamais pénétrer, pour laquelle il n'existe pas de connaissance directe. Au sujet de quoi nous nous faisons des croyances nombreuses à l'aide de paroles et même d'actions, lesquelles, les unes et les autres, ne nous donnent que des renseignements insuffisants et d'ailleurs contradictoires. Une ombre où nous pouvons tour à tour imaginer, avec autant de vraisemblance que brillent la haine et l'amour. J'aimais vraiment Madame de Guermantes. Le plus grand bonheur que j'eusse pu demander à Dieu eût été de faire fondre sur elle toutes les calamités, et que, ruinée, déconsidérée, dépouillée de tous les privilèges qui me séparaient d'elle, n'ayant plus de maison où habiter, ni de gens qui consentissent à la saluer, elle vint me demander asile. Je l'imaginais le faisant. Et même les soirs où quelque changement dans l'atmosphère ou dans ma propre santé amenait dans ma conscience quelques rouleaux oubliés sur lesquels étaient inscrites des impressions d'autrefois, au lieu de profiter des forces de renouvellement qui venaient de naître en moi, au lieu de les employer à déchiffrer en moi-même des pensées qui d'habitude m'échappaient, au lieu de me mettre enfin au travail, je préférais parler tout haut. Penser d'une manière mouvementée, extérieure, qui n'était qu'un discours et une gesticulation inutile. Tout un roman purement d'aventure, stérile et sans vérité, où la duchesse, tombée dans la misère, venait m'implorer. Moi, qui étais devenu, par suite de circonstances inverses, riche et puissant. Et quand j'avais passé des heures ainsi à imaginer les circonstances, à prononcer les phrases que je dirais à la duchesse en l'accueillant sous mon toit, la situation restait la même. J'avais, hélas, dans la réalité, choisi précisément pour l'aimer la femme qui réunissait peut-être le plus d'avantages différents et aux yeux de qui, à cause de cela, je ne pouvais espérer avoir aucun prestige. Car elle était aussi riche que le plus riche qui n'eût pas été noble. sans compter ce charme personnel qui la mettait à la mode, en faisait entre toutes une sorte de reine. Je sentais que je lui déplaisais en allant chaque matin au-devant d'elle. Mais si même j'avais eu le courage de rester 2 ou 3 jours sans le faire, peut-être cette abstention qui eût représenté pour moi un tel sacrifice, Madame de Guermantes ne l'eût pas remarqué ou l'aurait attribué à quelque empêchement indépendant de ma volonté. Et en effet, je n'aurais pu réussir à cesser d'aller sur sa route qu'en m'arrangeant à être dans l'impossibilité de le faire. Car le besoin, sans cesse renaissant de la rencontrer, d'être pendant un instant l'objet de son attention, la personne à qui s'adressait son salut, ce besoin-là était plus fort que l'ennui de lui déplaire. Il aurait fallu m'éloigner pour quelque temps. Je n'en avais pas le courage. J'y songeais quelquefois. Je disais alors à Françoise de faire mes mal, puis aussitôt après de les défaire. Et comme le démon du pastiche, et de ne pas paraître vieux jeu, altère la forme la plus naturelle et la plus sûre de soi, Françoise, empruntant cette expression au vocabulaire de sa fille, disait que j'étais dingo. Elle n'aimait pas cela. Elle disait que je balançais toujours. Car elle usait, quand elle ne voulait pas rivaliser avec les modernes, du langage de Saint-Simon. Il est vrai qu'elle aimait encore moins quand je parlais en maître. Elle savait que cela ne m'était pas naturel et ne me seyait pas, ce qu'elle traduisait en disant que « le voulu ne m'allait pas ». Je n'aurais eu le courage de partir que dans une direction qui me rapprocha de Madame de Guermantes. Ce n'était pas chose impossible. Ne serait-ce pas en effet me trouver plus près d'elle que je ne l'étais le matin dans la rue, solitaire, humiliée, sentant que pas une seule des pensées que j'aurais voulu lui adresser n'arrivait jamais jusqu'à elle, dans ce piétinement sur place de mes promenades, qui pourrait durer indéfiniment sans m'avancer en rien, si j'allais à beaucoup de lieux de Madame de Guermantes, mais chez quelqu'un qu'elle connut, qu'elle sut difficile dans le choix de ses relations et qui m'apprécia, qui pourrait lui parler de moi, et sinon obtenir d'elle ce que je voulais, au moins le lui faire savoir. Quelqu'un grâce à qui, en tout cas, rien que parce que j'envisagerais avec lui s'il pourrait se charger ou non de tel ou tel message auprès d'elle, je donnerais à mes songeries solitaires et muettes une forme nouvelle, parlée, active, qui me semblerait un progrès, presque une réalisation. Ce qu'elle faisait durant la vie mystérieuse de la Guermantes qu'elle était, cela qui était l'objet de ma rêverie constante, y intervenir, même de façon indirecte, comme avec un levier, en mettant en œuvre quelqu'un à qui ne fût pas interdit l'hôtel de la Duchesse, ses soirées, la conversation prolongée avec elle, ne serait-ce pas un contact plus distant mais plus effectif que ma contemplation dans la rue tous les matins? L'amitié, l'admiration que Saint-Loup avait pour moi me semblaient imméritées et m'étaient restées indifférentes. Tout d'un coup, j'y attachais du prix. J'aurais voulu qu'il les révélât à Madame de Guermantes. J'aurais été incapable de lui demander de le faire. Car dès qu'on est amoureux, tous les petits privilèges inconnus qu'on possède, on voudrait pouvoir les divulguer à la femme qu'on aime, comme font dans la vie les déshérités et les fâcheux. On souffre qu'elle les ignore, on cherche à se consoler en se disant que justement, parce qu'ils ne sont jamais visibles, peut-être ajoute-t-elle à l'idée qu'elle a de vous cette possibilité d'avantage qu'on ne sait pas. Saint-Loup ne pouvait pas depuis longtemps venir à Paris. Soit, comme il le disait, à cause des exigences de son métier, soit plutôt à cause de chagrin que lui causait sa maîtresse, avec laquelle il avait déjà été 2 fois sur le point de rompre. Il m'avait souvent dit le bien que je lui ferais en allant le voir dans cette garnison, dont, le surlendemain du jour où il avait quitté Balbec, le nom m'avait causé tant de joie quand je l'avais lu sur l'enveloppe de la première lettre que j'eusse reçu de mon ami. C'était, moins loin de Balbec que le paysage tout-terrien ne l'aurait fait croire, une de ces petites cités aristocratiques et militaires, entourée d'une campagne étendue où, par les beaux jours, flotte si souvent dans le lointain une sorte de buée sonore intermittente qui, comme un rideau de peupliers par ses sinuosités, dessine le cours d'une rivière qu'on ne voit pas, révèle les changements de place d'un régiment à la manœuvre, que l'atmosphère même des rues, des avenues et des places a fini par contracter une sorte de perpétuelle vibratilité musicale et guerrière, et que le bruit le plus grossier de chariots ou de tramways s'y prolonge en vagues appels de clairons, ressassés indéfiniment aux oreilles hallucinées par le silence. Elle n'était pas située tellement loin de Paris que je ne pusse, en descendant du rapide, rentrer, retrouver ma mère et ma grand-mère et coucher dans mon lit. Aussitôt que je l'eus compris, troublé d'un douloureux désir, j'eus trop peu de volonté pour décider de ne pas revenir à Paris et de rester dans la ville. Mais trop peu aussi, pour empêcher un employé de porter ma valise jusqu'à un fiacre et pour ne pas prendre, en marchant derrière lui, l'âme dépourvue d'un voyageur qui surveille ses affaires et qu'aucune grand-mère n'attend, pour ne pas monter dans la voiture avec la désinvolture de quelqu'un qui, ayant cessé de penser à ce qu'il veut, a l'air de savoir ce qu'il veut, et ne pas donner au cocher l'adresse du quartier de cavalerie. Je pensais que Saint-Loup viendrait coucher cette nuit-là à l'hôtel où je descendrais, afin de me rendre moins angoissant le premier contact avec cette ville inconnue. Un homme de garde alla le chercher, et je l'attendis à la porte du quartier, devant ce grand vaisseau tout retentissant du vent de novembre, et d'où à chaque instant, car c'était 6 heures du soir, des hommes sortaient deux par deux dans la rue, titubant comme s'ils descendaient à terre dans quelque port exotique où ils eussent momentanément stationné. Saint-Loup arriva, remuant dans tous les sens, laissant voler son monocle devant lui. Je n'avais pas fait dire mon nom. J'étais impatient de jouir de sa surprise et de sa joie. « Ah, quel ennui !» s'écria-t-il en m'apercevant tout à coup et en devenant rouge jusqu'aux oreilles. « Je viens de prendre la semaine et je ne pourrai pas sortir avant 8 jours. » Et, préoccupé par l'idée de me voir passer seul cette première nuit, car il connaissait mieux que personne mes angoisses du soir qu'il avait souvent remarquées et adoucies à Balbec, il interrompait ses plaintes pour se retourner vers moi, m'adresser de petits sourires, de tendres regards inégaux, les uns venant directement de son œil, les autres à travers son monocle, et qui tous étaient une allusion à l'émotion qu'il avait de me revoir. Une allusion aussi à cette chose importante que je ne comprenais toujours pas, mais qui m'importait maintenant, notre amitié. « Mon Dieu, et où allez-vous coucher ? Vraiment, je ne vous conseille pas l'hôtel où nous prenons pension. C'est à côté de l'exposition où des fêtes vont commencer. » « Vous auriez un monde fou. Non, il vaudrait mieux l'hôtel de Flandre. C'est un ancien petit palais du 18e siècle avec de vieilles tapisseries. Ça fait assez vieille demeure historique. » Saint-Loup employait à tout propos ce mot de « faire » pour « avoir l'air », parce que la langue parlée, comme la langue écrite, éprouve de temps en temps le besoin de ces altérations du sens des mots, de ses raffinements d'expression. Et de même que souvent les journalistes ignorent de quelle école littéraire proviennent les élégances dont ils usent, de même le vocabulaire, la diction même de Saint-Loup, était fait de l'imitation de 3 esthètes différents, dont il ne connaissait aucun, mais dont ses modes de langage lui avaient été indirectement inculqués. « D'ailleurs, conclut-il, « cet hôtel est assez adapté à votre hyperesthésie auditive. Vous n'aurez pas de voisins. Je reconnais que c'est un piètre avantage. Et comme, en somme, un autre voyageur peut y arriver demain, cela ne vaudrait pas la peine de choisir cet hôtel-là pour des résultats de précarité. Non, c'est à cause de l'aspect que je vous le recommande. Les chambres sont assez sympathiques, tous les meubles anciens et confortables. Ça a quelque chose de rassurant. Mais pour moi, moins artiste que Saint-Loup, le plaisir que peut donner une jolie maison était superficiel, presque nul, et ne pouvait pas calmer mon angoisse commençante, aussi pénible que celle que j'avais jadis à Combray, quand ma mère ne venait pas me dire bonsoir, ou celle que j'avais ressentie le jour de mon arrivée à Balbec, dans la chambre trop haute qui sentait le vétiver. Saint-Loup le comprit à mon regard fixe. « Mais vous vous en fichez bien, mon pauvre petit, de ce joli palais. Vous êtes tout pâle. Moi, comme une grande brute, je vous parle de tapisserie que vous n'aurez pas même le cœur de regarder. Je connais la chambre où on vous mettrait. Personnellement, je la trouve très gaie. Mais je me rends bien compte que pour vous, avec votre sensibilité, ce n'est pas pareil. Ne croyez pas que je ne vous comprenne pas. Moi, je ne ressens pas la même chose, mais je me mets bien à votre place. » Un sous-officier qui essayait un cheval dans la cour, très occupé à le faire sauter, ne répondant pas au salut des soldats, mais envoyant des bordées d'injures à ceux qui se mettaient sur son chemin, adressa à ce moment un sourire à Saint-Loup, et, s'apercevant alors que celui-ci avait un ami avec lui, salua. Mais son cheval se dressa de toute sa hauteur, écumant. Saint-Loup se jeta à sa tête, le prit par la bride, réussit à le calmer et revint à moi. « Oui, me dit-il, je vous assure que je me rends compte, que je souffre de ce que vous éprouvez. « Je suis malheureux, ajouta-t-il, en posant affectueusement sa main sur mon épaule, de penser que si j'avais pu rester près de vous, peut-être j'aurais pu, en causant avec vous jusqu'au matin, vous ôter un peu de votre tristesse. Je vous prêterai bien des livrets, mais vous ne pourrez pas lire si vous êtes comme cela. Et jamais je n'obtiendrai de me faire remplacer ici. Voilà deux fois de suite que je l'ai fait parce que ma gosse était venue. » Et il fronçait le sourcil à cause de son ennui et aussi de sa contention à chercher, comme un médecin, quel remède il pourrait appliquer à mon mal. Cours donc faire du feu dans ma chambre, dit-il à un soldat qui passait. Allons, plus vite que ça, grouille-toi. Puis de nouveau il se détournait vers moi, et le monocle et le regard myope faisaient allusion à notre grande amitié. Non, vous ici, dans ce quartier où j'ai tant pensé à vous, je ne peux pas en croire mes yeux, je crois que je rêve. En somme, la santé, cela va-t-il plutôt mieux? Vous allez me raconter tout cela tout à l'heure. Nous allons monter chez moi, ne restons pas trop dans la cour, il fait un bon Dieu devant. Moi, je ne le sens même plus, mais pour vous qui n'êtes pas habitué, j'ai peur que vous n'ayez froid. Et le travail, vous y êtes-vous mis? Non? Que vous êtes drôle! Si j'avais vos dispositions, je crois que j'écrirais du matin au soir. Cela vous amuse davantage de ne rien faire. Quel malheur que ce soit les médiocres comme moi qui soient toujours prêts à travailler, et que ceux qui pourraient ne veuillent pas. Et je ne vous ai pas seulement demandé des nouvelles de madame votre grand-mère. Son Proudhon ne me quitte pas. » Un officier, grand, beau, majestueux, déboucha à pas lents et solennels d'un escalier. Saint-Loup le salua, et immobilisa la perpétuelle instabilité de son corps, le temps de tenir la main à la hauteur du képi. Mais il l'y avait précipité avec tant de force, se redressant d'un mouvement si sec, et, aussitôt le salut fini, la fit retomber par un déclenchement si brusque, en changeant toutes les positions de l'épaule, de la jambe et du monocle, que ce moment fut moins d'immobilité que d'une vibrante tension, où se neutralisaient les mouvements successifs qui venaient de se produire et ceux qui allaient commencer. Cependant, l'officier, sans se rapprocher, calme, bienveillant, digne, impérial, représentant en somme tout l'opposé de Saint-Loup, leva lui aussi, mais sans se hâter, la main vers son képi. « Il faut que je dise un mot au capitaine !» me chuchota Saint-Loup. Soyez assez gentil pour aller m'attendre dans ma chambre. C'est la seconde à droite, au troisième étage. Je vous rejoins dans un moment. » Et, partant au pas de charge, précédé de son monocle qui volait en tous sens, il marcha droit vers le digne et lent capitaine dont on amenait à ce moment le cheval, et qui, avant de se préparer à y monter, donnait quelques ordres, avec une noblesse de gestes étudiés, comme dans quelque tableau historique, et s'il allait partir pour une bataille du premier empire, alors qu'il rentrait simplement chez lui, dans la demeure qu'il avait louée pour le temps qu'il resterait à Doncières, et qui était sise sur une place, nommée, comme par une ironie anticipée à l'égard de ce Napoléonide, place de la République. Je m'engageai dans l'escalier, manquant à chaque pas de glisser sur ces marches cloutées, apercevant des chambrées aux murs nus avec le double alignement des lits et des paquetages. On m'indiqua la chambre de Saint-Loup. Je restai un instant devant sa porte fermée, car j'entendais remuer. On bougeait une chose, on en laissait tomber une autre. Je sentais que la chambre n'était pas vide et qu'il y avait quelqu'un. Mais ce n'était que le feu allumé qui brûlait. Il ne pouvait pas se tenir tranquille. Il déplaçait les bûches et fort maladroitement. J'entrai. Il en laissa rouler une, en fit fumer une autre. Et même quand il ne bougeait pas, comme les gens vulgaires, il faisait tout le temps entendre des bruits qui, du moment que je voyais monter la flamme, se montraient à moi des bruits de feu. Mais que, si j'eusse été de l'autre côté du mur, j'aurais cru venir de quelqu'un qui se mouchait et marchait. Enfin, je m'assis dans la chambre. Des tentures de Liberty et de vieilles étoffes allemandes du XVIIIe siècle la préservaient de l'odeur qu'exhalait le reste du bâtiment, grossière, fade et corruptible comme celle du pain bis. C'est là, dans cette chambre charmante, que j'eusse dîné et dormi avec bonheur et avec calme. Saint-Loup y semblait presque présent, grâce au livre de travail qui était sur sa table à côté des photographies, parmi laquelle je reconnus la mienne et celle de Madame de Guermantes, grâce au feu qui avait fini par s'habituer à la cheminée, et, comme une bête couchée en une attente ardente, silencieuse et fidèle, laissait seulement de temps à autre tomber une braise qui s'émiettait ou léchait d'une flamme la paroi de la cheminée. J'entendais le tic-tac de la montre de Saint-Loup, laquelle ne devait pas être bien loin de moi. Ce tic-tac changeait de place à tout moment, car je ne voyais pas la montre. Il me semblait venir de derrière moi, de devant, d'à droite, d'à gauche, parfois s'éteindre, comme s'il était très loin. Tout d'un coup, je découvris la montre sur la table. Alors j'entendis le tic-tac, en un lieu fixe d'où il ne bougea plus. Je croyais l'entendre à cet endroit-là. Je ne l'y entendais pas, je l'y voyais. Les sons n'ont pas de lieu. Du moins, les rattachons-nous à des mouvements, et par là, ont-ils l'utilité de nous prévenir de ceci, de paraître les rendre nécessaires et naturels. Certes, il arrive quelquefois qu'un malade, auquel on a hermétiquement bouché les oreilles, n'entende plus le bruit d'un feu pareil à celui qui rabâchait en ce moment dans la cheminée de Saint-Loup, tout en travaillant à faire des tisons et des cendres qu'il laissait ensuite tomber dans sa corbeille, n'entende pas non plus le passage des tramways, dont la musique prenait son vol, à intervalles réguliers, sur la grande place de Doncières. Alors que le malade lise, et les pages se tourneront silencieusement, comme si elles étaient feuilletées par un dieu. La lourde rumeur d'un bain qu'on prépare s'atténue, s'allège et s'éloigne comme un gazouillement céleste. Le recul du bruit, son amincissement, lui ôte toute puissance agressive à notre égard. Affolé tout à l'heure par des coups de marteau qui semblaient ébranler le plafond sur notre tête, nous nous plaisons maintenant à les recueillir, légers, caressants, lointains comme un murmure de feuillage jouant sur la route avec le zéphyr. On fait des réussites avec des cartes qu'on n'entend pas, si bien qu'on croit ne pas les avoir remuées, qu'elles bougent d'elles-mêmes, et, allant au-devant de notre désir de jouer avec elle, se sont mises à jouer avec nous. Et à ce propos, on peut se demander si pour l'amour, ajoutons même à l'amour, l'amour de la vie, l'amour de la gloire, puisqu'il y a, paraît-il, des gens qui connaissent ces deux derniers sentiments. On ne devrait pas agir comme ceux qui, contre le bruit, au lieu d'implorer qu'il cesse, se bouchent les oreilles. Et, à leur imitation, reporter notre attention, notre défensive, en nous-mêmes, leur donner comme objet à réduire, non pas l'être extérieur que nous aimons, mais notre capacité de souffrir par lui. Pour revenir au son, qu'on épaississe encore les boules qui ferment le conduit auditif, elles obligent au pianissimo la jeune fille qui jouait au-dessus de notre tête un air turbulent. Qu'on enduise une de ces boules d'une matière grasse, aussitôt son despotisme est obéi par toute la maison. Ses lois même s'étendent au dehors. Le pianissimo ne suffit plus. La boule fait instantanément fermer le clavier et la leçon de musique est brusquement finie. Le monsieur qui marchait sur notre tête cesse d'un seul coup sa ronde. La circulation des voitures et des tramways est interrompue, comme si on attendait un chef d'État. Et cette atténuation des sons trouble même quelquefois le sommeil au lieu de le protéger. Hier encore, les bruits incessants, en nous décrivant d'une façon continue les mouvements dans la rue et dans la maison, finissaient par nous endormir comme un livre ennuyeux. Aujourd'hui, à la surface de silence étendue sur notre sommeil, un heurt plus fort que les autres arrive à se faire entendre, léger comme un soupir, sans lien avec aucun autre son, mystérieux. Et la demande d'explication qu'il exhale suffit à nous éveiller. Que l'on retire pour un instant au malade les cotons superposés à son tympan. Et soudain, la lumière, le plein soleil du son se montre de nouveau, aveuglant, renaît dans l'univers. À toute vitesse rentre le peuple des bruits exilés. On assiste, comme si elles étaient psalmodiées par des anges musiciens, à la résurrection des voix. Les rues vides sont remplies pour un instant par les ailes rapides et successives des tramways chanteurs. Dans la chambre elle-même, le malade vient de créer, non pas comme Prométhée, le feu, mais le bruit du feu. Et en augmentant, en relâchant les tampons d'ouate, c'est comme si on faisait jouer alternativement l'une et l'autre des deux pédales qu'on a ajoutées à la sonorité du monde extérieur. Seulement, il y a aussi des suppressions de bruit qui ne sont pas momentanées. Celui qui est devenu entièrement sourd ne peut même pas faire chauffer auprès de lui une bouillotte de lait sans devoir guetter les yeux, sur le couvercle ouvert, le reflet blanc, hyperboréen, pareil à celui d'une tempête de neige, et qui est le signe prémonitoire auquel il est sage d'obéir, en retirant, comme le Seigneur arrêtant les flots, les prises électriques. Car déjà l'œuf ascendant et spasmodique du lait qui bout accomplit sa crue en quelques soulèvements obliques, enfle, arrondit quelques voiles à demi chavirées qu'avait plissé la crème, en lance dans la tempête une en acre, et que l'interruption des courants, si l'orage électrique est conjuré à temps, fera toute tournoyer sur elle-même et jettera à la dérive, changés en pétales de magnolia. Mais si le malade n'avait pas pris assez vite les précautions nécessaires, bientôt ses livres et sa montre engloutie, émergeant à peine d'une mer blanche après ce mascaré lacté, il serait obligé d'appeler au secours sa vieille bonne, qui, fût-il lui-même un homme politique illustre ou un grand écrivain, lui dirait qu'il n'a pas plus de raison qu'un enfant de 5 ans. À d'autres moments, dans la chambre magique, devant la porte fermée, une personne qui n'était pas là tout à l'heure a fait son apparition. C'est un visiteur qu'on n'a pas entendu entrer et qui fait seulement des gestes, comme dans un de ces petits théâtres de marionnettes, si reposant pour ceux qui ont pris en dégoût le langage parlé. Et pour ce sourd total, comme la perte d'un sens ajoute autant de beauté au monde que ne fait son acquisition, c'est avec délice qu'il se promène maintenant sur une terre presque édénique où le son n'a pas encore été créé. Les plus hautes cascades déroulent pour ses yeux seuls leurs nappes de cristal, plus calmes que la mer immobile, comme des cataractes du paradis. Comme le bruit était pour lui, avant sa surdité, la forme perceptible que revêtait la cause d'un mouvement, les objets remués sans bruit semblent l'être sans cause. Dépouillés de toute qualité sonore, ils montrent une activité spontanée, ils semblent vivre. Ils remuent, s'immobilisent, prennent feu d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, ils s'envolent comme les monstres ailés de la préhistoire. Dans la maison solitaire et sans voisin du sourd, le service qui, avant que l'infirmité fût complète, montrait déjà plus de réserve, se faisait silencieusement, est assuré maintenant avec quelque chose de subreptice, par des muets, ainsi qu'il arrive pour un roi de féerie. Comme sur la scène encore, le monument que le sourd voit de sa fenêtre, caserne, église, mairie, n'est qu'un décor. Si un jour il vient à s'écrouler, il pourra émettre un nuage de poussière et des décombres visibles. Mais moins matériel même qu'un palais de théâtre, dont il n'a pourtant pas la minceur, il tombera dans l'univers magique, sans que la chute de ses lourdes pierres de taille ternissent de la vulgarité d'aucun bruit la chasteté du silence. Celui, bien plus relatif, qui régnait dans la petite chambre militaire où je me trouvais depuis un moment, fut rompu. La porte s'ouvrit, et Saint-Loup, laissant tomber son monocle, entra vivement.